RFI Midi, toute l'actualité, Jean-Baptiste Marot.
Un pétrole, détroit d'Ormuz et rivalité dans le golfe Persique. On va revenir à présent sur ce cocktail hautement explosif et de nouveau très menaçant ce jeudi, puisque deux pétroliers ont pris feu ce matin au Mer d'Oman. On en parlait dans le journal. Les raisons de ces incendies sont apparemment à des attaques, même si tout n'est pas encore très clair. Alors pour tenter d'y voir plus clair justement sur l'événement qui continue de poser beaucoup de questions, nous sommes en ligne avec Marc Lavergne. Bonjour.
Bonjour.
Marc Lavergne, vous êtes directeur de recherche au CNRS, géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes également membre du laboratoire EMAM, équipe Monde Arabe et Méditerranéen à l'Université de Tours. Alors Marc Lavergne, il y a tout juste un mois, le 12 mai, quatre navires avaient déjà été pris pour cible dans cette région. L'Arabie Saoudite avait alors parlé d'actes de sabotage, avait pointé du doigt l'Iran. Et les incidents d'aujourd'hui, de ce matin, presque un mois, jour pour jour exactement, c'est une coïncidence ou on peut établir une relation entre ces deux événements ?
On peut établir une relation, bien entendu. Je crois que, quels que soient les perpétrateurs de ces attentats, ils ont pour intention d'interrompre le trafic pétrolier entre le Golfe arabo-persique et puis les pays consommateurs, d'une part, donc de déstabiliser le marché pétrolier, peut-être. Et puis aussi, le doigt est pointé vers l'Iran, mais aucune preuve n'a été apportée jusqu'à présent. Et ce matin, c'est la marine iranienne qui a porté secours aux équipages de ces deux pétroliers. Les choses ne sont pas revendiquées. On peut penser à un attentat terroriste également. Comme vous le disiez, la région est une poudrière actuellement. Il y a la guerre du Yémen d'un côté. Il y a maintenant le Soudan qui s'embrase également. Alors, entre la mer Rouge et le Golfe, il y a certainement beaucoup d'intérêts en compétition. Donc, ce n'est pas parce qu'on peut pointer du doigt, effectivement, l'Iran, qui est sous embargo américain, les États-Unis ont dénoncé l'accord international autour du nucléaire iranien. Donc, aujourd'hui, l'Iran est étranglé financièrement.
Alors, Marc Lavergne, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Je reviens sur un point que vous évoquiez à l'instant. Vous disiez que l'Iran a porté secours ce matin à 44 marins des deux navires en feu. Ça l'exonère complètement du même coup de l'éventuelle responsabilité de l'attaque ?
Non, je crois qu'il faut preuve d'une certaine subtilité. Tout le monde peut avoir intérêt à cacher ses cartes. Ça peut être le coupable qui porte des secours pour des raisons humanitaires ou pour des raisons d'image aux victimes de ces attentats. Maintenant, il faudrait voir en quoi ces attentats vont dans l'intérêt de l'Iran. Encore une fois, l'Iran est aujourd'hui étranglé financièrement, donc est obligé de réduire ses opérations et son soutien au Hezbollah, peut-être au Hamas, en Syrie, son intervention en Irak. Donc, effectivement, c'est un pays qui est gravement, d'autant plus menacé que la Chine, l'Inde, etc. Tous les pays qui étaient ces consommateurs, ces importateurs de pétrole, ont commencé à réduire leur importation parce qu'ils sont menacés de sanctions américaines. Donc, finalement, on a un pays qui peut être acculé et donc réduit à des extrémités qui seraient dramatiques comme celle de ce matin. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ce raisonnement qu'on peut faire que ça donne des preuves de ce que l'Iran est passé à l'action en tant que puissance déstabilisatrice dans la région.
Le ministre iranien des Affaires étrangères parle, lui, d'une attaque carrément suspecte qui se produit au moment même où le premier ministre japonais est en Iran et où il rencontrait le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei. Vous êtes d'accord avec lui pour dire que effectivement la coïncidence entre la présence de Shinzo Abe à Téhéran et cette attaque qui a visé apparemment l'un des deux navires serait de nationalité japonaise. Vous êtes d'accord pour dire que ce sont des attaques et des événements qui coïncident et que cette coïncidence est suspecte.
Oui, mais on peut l'interpréter de différentes manières. On peut penser que c'est pour saboter la visite de Shinzo Abe à Téhéran que ces attentats ont été déclenchés, parce que finalement, le Japon pourrait se sentir menacé lui aussi, et donc il essaye de rétablir des relations. On a dit qu'il était là, en fait, un peu en envoyé de Trump, Shinzo Abe, pour essayer de créer une médiation entre les États-Unis et l'Iran. Donc le jeu est extrêmement complexe. Je ne pense pas que ce soit les les Iraniens qui ont essayé de saboter cette mission. Ils reçoivent Shinzo Abe qui leur offre des possibilités de sortie peut-être de la crise avec les États-Unis. Je ne sais pas à quel prix, je ne sais pas quelles sont les conditions posées par Trump, mais certainement Trump est aussi embarrassé maintenant de voir jusqu'où les implications de cet embargo sur l'Iran vont pour l'économie mondiale finalement.
On parle d'une éventuelle attaque à la torpille. On commençait à dire tout à l'heure qu'il s'agissait peut-être d'une attaque terroriste. Ces attaques à la torpille, est-ce que ça exclut justement une attaque terroriste? Est-ce que c'est forcément un arsenal qui désigne un État ou pas? Ou est-ce que certains groupes peuvent en disposer?
Le marché des armes étant ce qu'il est, et Daesh ayant eu accès à des armements très sophistiqués, on ne peut pas exclure qu'un mouvement terroriste puisse s'équiper de torpilles. Mais il faut un navire, il faut un lanceur pour ces torpilles. Et donc, ça veut dire qu'il y aurait dans la zone un bâtiment qui n'aurait pas été identifié jusqu'à présent, qui serait sous-marin ou qui serait un navire qui aurait lancé ces torpilles. Hein. À moins que ce soit des petites torpilles, il n'y a pas besoin de quelque chose d'extrêmement important. Je ne sais pas si les bâtons ont coulé d'ailleurs, hein, je ne pense pas. Parce qu'il y a
il y a eu des informations contradictoires hein, à ce propos, effectivement, comme d'autres qui ont circulé ce matin. On a dit que l'un des navires avait coulé dans un premier temps, que ce n'était pas le cas ensuite. Il y a beaucoup de mystères hein, qui entourent cette affaire encore à cette heure-ci. Comment cela se fait-il? On a une idée?
Alors, écoutez, la région est très parcourue parce que vous savez, le détroit d'Ormuz, il y a une bande passante, si vous voulez, de 20 kilomètres de large. Hein. Donc, les bateaux se voient et puis c'est un flot continu. Si vous êtes sur place à Ras Musandam du côté Oman ou bien en face du côté de Bandar Adjas, etc., vous voyez qu'il y a d'abord une circulation très intense nord-sud qui croise le détroit. Ça, ce sont les contrebandiers qui partent de Dubaï vers l'Iran. Et puis, dans l'autre sens, il y a une chaîne continue de pétroliers et de cargos qui traverse. Donc, il doit y avoir des observations sur place. Et puis, il y a la cinquième flotte américaine qui est basée à Bahreïn, qui a à la fois ses navires, mais aussi ses avions, et qui peut, avec les écoutes, hein, c'est elle qui a été prévenue en premier, d'ailleurs, par les équipages de ce qui s'était passé.
Merci
beaucoup.
Donc,
on devrait avoir plus d'éléments.
On devrait avoir plus d'éléments, mais difficile d'y voir clair hein, de façon rapide. Merci beaucoup, Marc Laverne, d'avoir été avec nous à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et géopolitologue spécialiste du Moyen-Orient.